Bonjour à tous, bienvenue dans le débat de midi. Alors j'espère que vous avez passé un bon week-end, hein, parce que moi personnellement le mien était vraiment chouette. En fait, pour tout vous dire, j'ai pris mon scooter et je me suis installé sur un pont d'autoroute. J'ai regardé les voitures rentrer vers le nord avec une certaine délectation. Oui, c'est vicieux, parce que figurez-vous que c'est la dernière semaine du débat de midi et que les vacances vont bientôt commencer pour nous. Enfin, si vous êtes nostalgique, pourquoi ne pas prendre un bon bouquin afin de s'aérer? Ça tombe bien, c'est la rentrée littéraire, hein, tradition typiquement française. Cette année, seule 466 nouveaux romans vont fleurir sur les étals de nos librairies. Alors je dis seulement, car c'est 5% de moins que l'année dernière. Les Français, on le sait, aiment lire. 89% d'entre eux interrogés par le Centre National du Livre disent avoir lu un livre dans l'année. Par contre, eh bien ça décrocherait un peu chez les 15-24 ans. Un jeune sur 5 n'ouvrirait jamais un livre pour préférer son écran. Alors comment le goût des pages rentre-t-il dans notre quotidien? Et si le numérique, finalement, était une autre forme de lecture? Et ce milieu de l'édition, hein, que l'on dit perpétuellement en crise et qui en fait se porterait pas si mal, presque aussi bien que le pneumologue de Michel Houellebecq, eh bien ce milieu d'édition est-il encore dénicheur de talent? Alors avant de tourner la page, n'hésitez pas à nous donner vos impressions de lecteur et votre avis sur cette rentrée littéraire, si vous la suivez ou pas, avec vos notes vocales et vos messages sur l'appli France Inter ou par WhatsApp au 07 64 13 70 07. 07 64 13 70 07. Le débat de midi, feuille blanche, premier chapitre, première phrase. Longtemps je me suis couché de bonheur, hein. Je crois que c'est déjà pris, non? Bon, allez, c'est parti.
Jean-Mathieu Pernin, le débat de midi. Sur France Inter.
Et le débat de midi pour parler de rentrée littéraire reçoit Gisèle Sapiro. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue de la littérature, directrice de recherche au CNRS, directrice des études EHESS et vous êtes autrice, entre autres, d'une sociologie de la littérature parue en 2014. Également Pascal Perrault. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général du Centre National du Livre. Et puis Thomas Bou. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur et directeur des éditions Rue de l'Échiquier, membre de l'association pour l'écologie du livre fondée en juin 2019. Alors avec vous, on va surtout parler justement concrètement du métier aussi d'éditeur. Gisèle Sapiro, je le disais, rentrée littéraire un peu moins importante que l'année dernière, 5% moins. Est-ce que ça veut dire qu'on écrit moins ou alors c'est vraiment purement économique à cause du prix du papier qui est plus important aujourd'hui?
Oui, je pense qu'il y a la dimension économique qui joue pour l'édition, c'est-à-dire à la fois l'inflation et le prix du papier. Donc deux facteurs qui rendent les choses difficiles là pour le milieu éditorial. Après, je pense qu'il y a aussi une conscience du fait que cette rentrée surchargée en livres, c'est aussi alors évidemment il y a la concentration de l'attention sur un certain nombre de titres, mais ça veut dire aussi que beaucoup de livres vont être délaissés pour compte, donc peut-être qu'il y a aussi une conscience de la nécessité d'envoyer moins d'auteurs prendre ce type de risque.
Pascal Perrault, est-ce que pour vous c'est quoi alors finalement le fait qu'il y ait moins de livres cette année, c'est une chance ou alors au contraire un signe d'une mauvaise santé?
Bon, déjà, je crois qu'il faut se réjouir, comme chaque année, de la diversité, de la pluralité de tous les ouvrages qui sont publiés. 470 nouveaux romans cette année, 75 nouveaux romanciers qui sont publiés. Donc, on reste sur des chiffres extrêmement importants. Donc, effectivement, il y a une légère baisse de 5%, qui est même plus sensible. Si on regarde depuis 2010, je crois que c'est près d'un tiers de parutions en moins.
C'est une tendance, en effet.
C'est une tendance baissière qu'on constate depuis une vingtaine d'années à présent. Je crois que il n'y a rien d'inquiétant sur le nombre de parutions. La rentrée littéraire, c'est aussi un moment où des petits, des moyens éditeurs vont montrer de nouveaux auteurs qu'ils ont dénichés, qu'ils ont trouvés. Et le fait d'avoir une rentrée un peu moins prolifique va leur permettre de mieux se faire connaître, de mieux présenter leurs auteurs avec les libraires qui lisent ces auteurs et vont les recommander ensuite. Donc c'est un moyen aussi pour les petites et moyennes maisons d'édition de mieux se faire reconnaître.
Alors Thomas Bou, je le disais, entre 466 et 470 nouveaux livres, les éditions de la rue de l'Échiquier sortent combien de livres au mois de septembre?
Alors nous, on sort un seul titre durant cette rentrée littéraire.
On fait 3 romans par an depuis 2018. Je me joins d'abord à ce que disait Monsieur Perrault à propos du fait qu'il s'agit évidemment d'un moment privilégié pour la littérature, pour le fait que pendant ces quelques semaines qui viennent, on va parler de textes, on va parler d'auteurs, on va parler de style, on va parler de sujets. C'est le signe d'une vitalité. Et effectivement, je pense que c'est une chance pour un éditeur. C'est aussi vertigineux parce qu'évidemment on sort un seul titre sur cette rentrée littéraire. Il va falloir exister dans un contexte de concentration capitalistique, mais aussi de resserrement finalement de la focale sur quelques titres, du fait évidemment des liens organiques entre des groupes d'édition et des groupes de médias, mais aussi parce que tout simplement dans les rédactions, le temps de cerveau disponible, il n'est pas infini, hein, il est limité comme les ressources de notre planète. Donc voilà, il faut être créatif pour faire parler effectivement de son livre durant cette période là.
Voilà, Pascal Perrault, je précise juste, le coq derrière vous, c'est un vrai coq, hein, parce qu'on l'entend bien, c'est pour ça. Donc,
C'est un coq, effectivement. Bien, je ne suis pas tout seul.
Voilà, non, c'est bien. Non, mais à un moment, il faut aussi savoir vivre avec les coqs. Alors, en effet, Pascal Perrault, je le disais, donc 466, on le dit, c'est une tendance moindre, mais tout de même, à chaque fois, on est surpris. 466, ça paraît énorme, énorme tout de même. Quand on se rappelle au début, enfin, quand ça a été lancé, on s'est plongé avec toute l'équipe du débat de midi dans le début de la rentrée littéraire, c'était dans les années 60, on parlait à l'époque de 50 livres maximum. Là, 466, à chaque fois on se rend compte qu'il y en a énormément. Est-ce que c'est une chance pour les éditeurs et la vivacité du livre en France d'avoir autant de livres au même moment, ou alors on se dit il y a un trop-plein, moi je ne sais pas quoi choisir, quoi.
Alors, je dirais un petit peu des deux, mais oui. On peut se réjouir aussi que tous ces auteurs, toutes ces nouvelles publications vont aborder tous les sujets qui traversent l'actualité. On a des romans sur les questions sociales, sur la nature, sur la place des femmes, sur la guerre. Et en fait, cette profusion, c'est vrai, de nouvelles parutions, c'est aussi un moyen de mieux comprendre le monde qui nous environne. Il ne faut pas perdre à l'esprit non plus qu'il y a eu une très forte augmentation du nombre d'éditeurs en France, hein, depuis une vingtaine d'années. On dénombre près de 3000 éditeurs aujourd'hui, c'est beaucoup plus que dans les années 60. Chacun de ces éditeurs a une ligne éditoriale, trouve des auteurs qui correspondent à cette ligne, leur font confiance et veulent les promouvoir sur les étals. Et effectivement, nous avons en France un phénomène de concentration des parutions sur la rentrée de septembre, sans doute du fait des prix littéraires, d'autres aspects, mais nous avons un moment d'échange aussi, de débat autour du livre et de la littérature, et ça on peut vraiment s'en réjouir chaque année, que ce soit aussi présent dans l'actualité.
On va y venir dans un instant sur les prix, mais c'est vraiment pour ça qu'il y a au départ une rentrée littéraire en septembre ? C'est par rapport au prix ?
C'est beaucoup par rapport au prix, oui. C'est-à-dire que, en fait, il y a une sorte de rituel qui s'organise dès la rentrée pour qu'on puisse parler des livres, pour que les livres puissent être mis en concurrence. C'est un rituel qui occupe toute la chaîne du livre, depuis les éditeurs, les libraires, les critiques, la presse. Et donc, toute cette concurrence est plus ou moins orchestré, rythmé justement par les listes de sélection des prix, et cette rentrée, elle ne cesse d'avancer dans le temps, hein. Maintenant on est à la mi-août, oui. Où les sorties commencent, et en fait les éditeurs eux-mêmes mettent leurs propres auteurs en concurrence, c'est-à-dire qu'ils doivent arbitrer. Alors, faut avoir en tête que la rentrée littéraire, c'est seulement 5% de la production annuelle de livres de littérature, qui sont eux-mêmes que 20% de l'ensemble de la production de livres en France. Et pourtant, c'est déjà énorme, et on sait très bien que la surproduction, c'est un moyen de gérer la concurrence, hein, d'occuper l'espace pour que le concurrent ne puisse pas l'occuper. Mais c'est vrai que dans cette rentrée littéraire, malgré tout, même s'il y a beaucoup de laissés pour compte, il y a un vrai débat sur la littérature. C'est un moment de focalisation. C'est un phénomène très français, très spécifique à la France. Alors, il y a un petit peu... il y a aussi, bien sûr, la Belgique, la Suisse, par la proximité. Mais c'est aussi lié à l'identité, l'image de la France comme nation littéraire. On voit pas ça de la même manière dans d'autres pays.
Justement, Pascal Perrault, là, on parle de romans francophones, français. Les maisons d'édition étrangères, elles connaissent cette tradition française de la rentrée littéraire. Est-ce qu'elles l'apprécient ? Est-ce que finalement elles se disent il n'y a pas trop de concurrence à ce moment-là ? Est-ce qu'elles apprécient justement ce moment aussi ? Parce qu'il y a des nouveaux romans étrangers aussi qui vont sortir.
Alors il y a des relations évidemment entre les éditeurs français et les éditeurs étrangers. Donc quand on parle de 470 nouveaux romans, il y a à peu près 150 romans étrangers. D'accord. Qui sont traduits en français. D'ailleurs souvent avec le soutien du Centre National du Livre. Oui. qui soutient beaucoup la traduction. C'est un moyen de connaître les autres littératures, les auteurs étrangers, de mieux connaître leur environnement. Effectivement, ce phénomène est très très bien connu aussi à l'étranger, et c'est un moyen aussi de faire connaître les auteurs étrangers en France grâce aux cessions de droits entre éditeurs.
Et Thomas Bou, aujourd'hui, les auteurs apprécient cette concurrence. Quand on dit à un auteur qu'il va sortir au mois de septembre, est-ce que ça l'inquiète d'autant plus, ou au contraire, ça peut le motiver?
Je pense que c'est très évidemment variable, je pense que la plupart apprécient le fait de faire partie de cette rentrée littéraire, parce que c'est un temps d'exposition privilégié. Évidemment, on est nombreux, mais si le livre est bon, si le livre est original, il a des chances d'être effectivement mis en avant, à la fois par les médias qu'on a évoqués, mais aussi par les libraires indépendants en particulier, les lecteurs et les lectrices, avec cette chambre d'écho aujourd'hui extraordinaire que constituent les réseaux sociaux. Donc oui, je pense que les auteurs sont globalement plutôt satisfaits. Nous, chez Rue de comme on a, en fait, on est très néophyte en matière de rentrée littéraire. C'est notre deuxième rentrée littéraire simplement. L'année dernière, on avait choisi effectivement de publier Rodez Mexico de Julien Villa, qui était un premier roman très original. Cette année, on se lance dans une aventure assez exceptionnelle avec la publication du premier roman d'une autrice finlandaise, Annika Timaki. Le roman s'appelle Gorge d'or. Il est exceptionnel par sa longueur, 640 pages, sa langue d'origine, le chinois, sa fabrication aussi, le format spécial qu'on a retenu, les papiers de création, et par sa qualité littéraire, évidemment, et d'abord, puisque c'est, comme le dit Anne-Colin Duterail, la traductrice du livre, l'âme de la Finlande, que reflète ce livre-là. Et donc, je pense qu'effectivement, pour tous nos auteurs, ça constitue une fenêtre tout à fait exceptionnelle pour être effectivement reconnu.
Alors souvent aussi, ce qu'on peut lire véritablement aussi, Gisèle Sapiro, c'est que, eh bien, parmi les auteurs que l'on connaît, ceux qui sont connus du grand public, eh bien, c'est toujours les mêmes. Par exemple, je prends Amélie Nothomb, c'est sa 29e rentrée littéraire. Est-ce qu'il y a aussi une prime à ça en disant, bah oui, bien sûr, il y a beaucoup de livres, mais eh bien, les maisons d'édition misent en gros, bien sûr, bien des auteurs qui peuvent leur rapporter plus d'argent. C'est ce qu'ils choisissent aussi pour clairement et assumer clairement le fait que eh bien les meilleurs, meilleures plumes de leur écurie vont sortir des livres à ce moment-là.
Oui, alors tous les écrivains ne sont pas aussi prolifiques qu'Amélie Nothomb, donc ils ne font pas forcément toutes les rentrées littéraires, mais il est vrai que la reconnaissance littéraire, la légitimité littéraire se construit dans le temps et se construit autour de la figure de l'auteur, et que il y a 70 nouveaux romans dans cette rentrée, donc parmi ces 70, peut-être que certains vont devenir des figures de référence, mais il est vrai que les médias aiment bien se concentrer sur des figures déjà connues du public. Et donc, il y a une sorte de cercle. En sociologie, on appelle ça, d'après le sociologue Robert Merton, l'effet Saint-Mathieu. C'est-à-dire que plus on est reconnu, plus on est reconnu. Plus on a de critiques, plus on a de critiques. Plus on est traduit, plus on est traduit. Et en fait, c'est cet effet de concentration qui est la concentration de l'état de l'attention médiatique qui fait que les éditeurs eux-mêmes vont mettre en concurrence des auteurs qui ont plus de chances d'acquérir cette visibilité, d'autant que les prix aussi sont intéressés par des auteurs qui ont déjà une certaine surface, c'est-à-dire une certaine visibilité. Les prix littéraires, ça déculpe les ventes des livres, mais déculpe à partir d'un chiffre de départ. Donc, un livre plus difficile, plus expérimental, va pas atteindre les mêmes ventes qu'un livre très très accessible d'un auteur déjà ou d'une autrice déjà très reconnue.
C'est ça. Alors, il y a une question de Laurence par mail, qui est assez intéressante, Pascal Perrault, qui nous dit 470 ouvrages produits par des éditeurs, certes, mais aussi un nombre chaque année plus important de livres autoproduits par des auteurs, dont elle nous dit le talent est cautionné par leurs lecteurs. Ne pas aborder cette réalité en 2023, est-ce crédible? Il est vrai que l'on voit une auto-édition, notamment, par exemple, quand on va sur Amazon, qui propose une auto-édition, des choses comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une réalité aussi à prendre en compte quand on parle du livre en France?
Effectivement, on constate un phénomène de développement de l'auto-édition. Alors nous, au Centre National du Livre, évidemment, nous soutenons la chaîne du livre dans son ensemble et nous considérons que l'éditeur tient un rôle fondamental puisque l'éditeur, il ne faut pas l'oublier, trouve les auteurs et reçoit énormément de manuscrits, va dénicher des auteurs et ensuite assurer leur promotion. Donc effectivement, nous sommes dans un monde aujourd'hui où il y a d'autres moyens de promotion que la diffusion par les cercles, la librairie indépendante, classique. Il y a une possibilité de promotion par les réseaux sociaux et un certain nombre d'auteurs qui ont déjà souvent alors soit on a affaire à des auteurs qui ont une grande renommée et qui prennent leur indépendance. On a eu quelques cas comme Joël Dicker par exemple qui ont décidé de s'auto-éditer ou le joueur de football Kylian Mbappé qui s'est auto-édité. Donc là, nous avons affaire à des personnes qui peuvent assurer un peu leur promotion par leurs propres moyens, en se passant des éditeurs et de leurs liens privilégiés avec les librairies. Et puis, à contrario, des personnes qui n'ont pas pu se faire éditer, parce que c'est très compliqué aussi de se faire éditer. On sait que 90% des manuscrits sont rejetés et qui décident de s'auto-éditer. Ça coûte assez peu cher en fait de produire son livre et d'essayer de se diffuser, mais là dans la plupart des cas nous avons une diffusion extrêmement faible. Donc mais effectivement il y a un phénomène d'auto-édition qui peut se développer, notamment aussi avec le rôle des influenceurs qui se développe beaucoup.
Le poids de l'auto-édition a beaucoup changé avec Internet, parce qu'il y a des sites comme Wattpad par exemple qui sont des sites d'auto-édition et qui ont un lectorat de plus d'un million, enfin de ceux dont rêverait tout écrivain, voilà. Et donc ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce monde de l'auto-édition il y a une sorte de monde parallèle. Il y a aussi des prix, il y a aussi des avis qui sont émis, des jugements critiques, il y a Goodreads, qui peuvent être pour les deux. Et ce qui est intéressant, je ne sais pas si c'est pour le meilleur ou pour le pire, mais il y a un brouillage qui est en train de s'opérer entre le monde qui était très cloisonné officiellement sur le papier, parce qu'en fait plein d'éditeurs professionnels pratiquaient en fait le compte d'auteur déguisé, mais le brouillage est en train de s'opérer, et notamment quand Penguin a racheté une maison britannique au départ, a racheté une maison d'auto-édition, et là on s'est dit que là il y avait peut-être un brouillage qui est en train de s'opérer entre ces univers, et pareil, certaines sociétés d'auteurs considèrent maintenant peut-être d'inclure des auteurs auto-édités.
Et aussi autre chose, Joseph Sapiro, il y a aussi ce phénomène qui est un petit peu en parallèle des maisons d'édition classiques, c'est les fameux book clubs qu'on a pu voir aux États-Unis. Alors, bien sûr, il y a un peu un fantasme autour de la réalisation, mais on a vu des best-sellers, mais mondiaux, ça a été le cas de Fifty Shades of Grey, absolument, par exemple, et qui a commencé sur Internet.
Sur Internet, absolument, et qui a commencé un peu comme les feuilletons au 19e siècle, c'est-à-dire comme Eugène Sue attendait les avis des lecteurs pour développer son histoire, pour voir dans quel sens les lecteurs, les lectrices souhaiteraient l'histoire se développer. Et Fifty Shades of Grey, c'était ça au départ, c'est-à-dire que c'était presque une sorte de roman produit dans la coopération et l'interaction. Et c'est à partir du succès sur Internet qu'un éditeur a souhaité l'éditer.
C'est ça. Thomas Boub, vous, quand vous voyez aujourd'hui ce monde de l'édition d'Internet, là on parle de rentrée littéraire, est-ce que vous avez l'impression d'appartenir un peu au vieux monde ?
Écoutez, je laisse les lecteurs en juger, mais c'est vrai que nous, on fait un travail d'artisan, hein, touche à tout, depuis le choix initial des textes que l'on décide de publier, jusqu'à la fabrication, en passant évidemment par les étapes de mise au point du manuscrit avec l'auteur, ou de la traduction avec nos traducteurs, jusqu'à la commercialisation, en passant par toutes les étapes de promotion. Donc on s'occupe effectivement de tout, c'est un métier de touche à tout, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est le plus beau métier du monde, comme disait Françoise Verny. Mais non, je pense qu'effectivement, on est sur des circuits à la fois de création et de diffusion qui sont très différents. Et j'ose penser que l'éditeur a ce recul qui va permettre à un auteur de donner le meilleur de lui-même.
C'est ça. Allez, dans un instant, on va continuer à parler justement dans le débat de midi de cette rentrée littéraire et du monde du livre. On sait que les Français aiment lire. N'hésitez pas, eh bien, à nous laisser des notes vocales, hein, des messages, également des mails via l'appli France Inter. On revient dans un instant, juste après, eh bien, chanteur qui aurait pu être écrivain également, hein, puisque c'est Dominica avec La Fadeur et L'Intensité.
La vie aurait le goût de l'eau d'une question jamais posé, la fadeur ancrée sous la peau. On éviterait l'intensité. Nous en sommes arrivés au point où peu de choses nous importent. Un ciel, un baiser, un refrain, qu'on ne fasse pas claquer la porte. On sent pourtant encore la peur qui se colle à nous-mêmes l'été, condamné à l'intensité, à ce que saturent les couleurs. Il n'y aurait plus de douleur, ni de joie pour nous soulever. Les colères seraient passé, rien qui n'éprouve plus le cœur. Nous en sommes arrivés au point où peu de choses nous importent. Un ciel, un baiser, un refrain, qu'on ne fasse pas claquer la porte. On sent pourtant encore la peur qui se colle à nous-mêmes l'été, condamné à l'intensité, à ce que saturent les couleurs. Épargné par la grande épreuve, l'histoire s'entête à nous frôler. Quelques saisons à s'éviter, un petit écart sur le fleuve. Mais on entend bien le tonnerre et l'aiguille tend à s'affoler. Les particules électrisées provoquent d'étranges flux dans l'air. La vie aurait le goût de l'eau.
Le débat de midi sur France Inter.
Le débat de midi, hein. Nous parlons rentrée littéraire et livre, hein, puisque en France, c'est vrai qu'on aime beaucoup lire. Nous sommes une vraie nation de littérature. On en parle avec Gisèle Sapiro, sociologue de la littérature et directrice de recherche au CNRS. Également Pascal Perrault, directeur général du Centre National du Louvre, du Livre. Et Thomas Bou, vous êtes cofondateur et directeur des éditions Rue de l'Échiquier. Alors, vous réagissez via l'appli France Inter avec des notes vocales et des messages. Alors, c'est vrai que il y a Magali là qui nous laisse un message, qui nous parle de la rentrée littéraire. Elle nous dit qu'elle lit beaucoup. J'avoue que elle nous dit la rentrée littéraire, je m'en contrefiche, 10 fois plus que ce que je peux lire dans une année qui sort en un mois. Quel intérêt. C'est vrai que Gisèle Sapiro, vous le disiez, c'était important pour focaliser un petit peu aussi sur la littérature le temps de quelques semaines. Mais les très grands lecteurs comme la Gisèle, comme Magali qui nous dit je lis un livre par semaine, entre 50 et 60 par an. Eux, ils disent à rentrée littéraire, finalement, pour moi, c'est tous les jours, quoi.
Bah, oui et non, parce que c'est vrai que, par exemple, les certains festivals de littérature de la rentrée préparent la rentrée avec des grands lecteurs comme Magali, avec les bibliothèques. Ils vont accueillir les écrivains lors des festivals. Ils vont parfois faire eux-mêmes des lectures mises en scène. Et donc, on peut faire participer les grands lecteurs à cette rentrée. Après, c'est un choix que je peux parfaitement respecter d'ignorer cette sélection, et quand on sait ce qu'on a envie de lire, on n'a pas besoin de prescription. Et puis la rentrée concerne une certaine portion de la littérature. Les romans étrangers sont dedans parce qu'il y a des prix aussi maintenant de littérature étrangère, mais il y a beaucoup de romans étrangers qui se publient toute l'année. Il y a les classiques, il y a des rééditions, il y a des traduction. Donc la rentrée littéraire, c'est vraiment les nouveaux romans sur lesquels on se focalise autour de la question des prix. Et ça laisse de côté beaucoup de, par exemple, la littérature plus expérimentale, plus novatrice. Ça laisse de côté la poésie, le théâtre.
C'est ça. Voilà. C'est ce que nous dit aussi François, qui nous dit pourquoi finalement aujourd'hui on parle moins de poésie et autre chose. Également Pascal Perrault, comme ça j'en profite et on aura fait justement aussi ces questions. Quelques questions autour justement de la bande dessinée des mangas. Alors là, il n'y a pas de rentrée. On ne peut pas parler de rentrée littéraire véritablement pour les mangas comme les bandes dessinées franco-belges.
Potentiellement, la rentrée littéraire peut concerner tous les genres littéraires. Oui. On a une très forte majorité de littérature générale, mais certains éditeurs choisissent la rentrée aussi pour publier. Effectivement, les mangas sont publiés tout au long de l'année. Donc on ne peut pas parler vraiment de rentrée pour ce qui concerne le manga.
Et la bande dessinée, je rappellerai que l'année dernière, la bande dessinée Le Monde sans fin a été le livre le plus vendu en 2022. 514 000 exemplaires. Ça, c'est exceptionnel. Pour une bande dessinée, il y avait également Astérix en l'année d'avant, donc on voit à quel point aujourd'hui aussi le monde de la bande dessinée est important pour le milieu de l'édition et du livre français.
On voit depuis quelques années un véritable boom de la bande dessinée, qui est désormais le genre littéraire, le deuxième genre littéraire après la littérature générale. C'est 18% des livres vendus en France l'année dernière qui étaient des bandes dessinées, des mangas. Les mangas représentent un peu plus de la moitié désormais au sein de ce chiffre. Et donc on voit chez les moins de 25 ans un vrai phénomène autour du manga. Donc il y a des mangas de tout type, avec une très grande diversité également. Et la bande dessinée dite franco-belge se maintient également très bien, avec une très belle diversité, des ouvrages remarquables comme par exemple le magnifique Madeleine Riffaud, qui est dans le deuxième tome. Va sortir, je crois, cette semaine autour d'une figure d'une grande résistante, avec des histoires très très fortes qui sont avec des scénarios également très bien construits et des magnifiques dessins qu'on retrouve. Il y a une très grande diversité de bandes dessinées.
Très large en effet.
Ça peut être aussi bien de la BD documentaire. Vous avez cité Un Monde sans fin. Et on a de la BD de pure fiction.
Et ce qui marche bien aussi, c'est ça qui est étonnant en bande dessinée, c'est aussi l'adaptation bande dessinée de romans. On l'a vu par exemple, la bande dessinée L'Étranger, par exemple, de Camus avait très bien marché, ou comme Proust aussi, ça marche très bien en bande dessinée.
Effectivement, très grands romans sont adaptés, les romans sont aussi adaptés au cinéma, dans les séries. On a un phénomène de filialisation quasiment, avec des très beaux scénarios, très belles histoires qui vont être déclinées sur différents genres, bande dessinée, romans, cinéma. On vient de faire une étude au CNL sur les adaptations audiovisuelles, et on voit qu'il y a un retour aussi sur les ventes de livres quand un livre est adapté au cinéma.
Thomas Bou, je rappelle, donc vous êtes directeur des éditions Rue de l'Échiquier. C'est assez intéressant ce que nous dit Arthur par mail. Il dit: je lis beaucoup, la rentrée littéraire m'intéresse assez peu parce qu'en fait elle s'intéresse surtout à une certaine littérature. Moi je lis surtout de la science-fiction ou des polars et je m'en sens exclu. Alors il met même entre parenthèses, voire un peu méprisé. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui on mettrait toujours, aussi bien éditeurs que nous, médias, une certaine littérature en avant et pas une autre, d'après vous ?
Oui, je pense qu'effectivement, il y a d'une part ce phénomène de focalisation sur un certain type de littérature que la rentrée littéraire amplifie. Par exemple, la littérature de l'imaginaire, la littérature de science-fiction, la littérature policière sont des genres qui bénéficient moins de cette période-là, et il y a des saisonnalités. On sait que, par exemple, le polar a toutes ses chances de réussir quand il paraît au printemps. Voilà, donc on sait qu'il y a aussi ces phénomènes-là. Après, je pense que, par exemple, la littérature de l'imaginaire, très clairement, bénéficie de cercles, on va dire, plus initiés et de réseaux différents de ceux auxquels la littérature générale est habituée.
Et pourtant, Gisèle Sapiro, quand Thomas Bou parle en effet littérature de l'imaginaire, il suffit d'aller dans une grande surface culturelle et de voir à quel point et quelle est la place occupée par la littérature d'imaginaire, qui est immense en fait en France.
Oui, tout à fait. Mais comme disait Thomas Bou, il y a des circuits distincts, en fait. Il y a des festivals du polar, il y a des prix spécifiques pour les genres, parce que on sait que les publics sont différents, en fait.
D'accord. Hein. Ah, oui.
Voilà. Et d'ailleurs, par exemple, la science-fiction, typiquement, un public, un lectorat beaucoup plus masculin, alors que les romans non de genre ont un lectorat beaucoup plus féminin.
Mm. C'est ça. Alors, Pascal Perrault, il y a une question presque directement pour vous, parce que vous allez me dire, je sais ce que vous allez me répondre d'ailleurs à cette question, mais je préfère quand même vous la lire. C'est Michel, elle est bibliothécaire, et elle nous dit « La rentrée littéraire, qui devrait m'enchanter, est au contraire devenue ma hantise. Dois-je acheter les 10 ou 15 livres dont on parle partout, et que me demandent les lecteurs, qui n'entendent justement parler que de ces titres-là, ou bien dois-je élargir et faire connaître de nouveaux auteurs, au risque de décevoir nos lecteurs ? Nos budgets nous imposent de faire des choix difficiles, éternelle question à chaque rentrée littéraire. » Vous allez me dire qu'il faut acheter de tous les livres, bien sûr, mais à votre avis, c'est vrai que cette question de Michel, elle doit finalement aujourd'hui travailler énormément de bibliothécaires.
C'est un questionnement au cœur même de son métier et celui des bibliothécaires, celui des libraires aussi, qui doivent trouver un bon équilibre donc dans tous les lieux dédiés à la lecture, à la littérature. Il y a toujours une table un petit peu tête de gondole avec les livres que chacun veut lire parce qu'il en a entendu parler. Et puis aussi les choix des bibliothécaires, des libraires indépendants qui lisent les livres et qui ont envie de les faire découvrir aux lecteurs. C'est pour ça d'ailleurs qu'on soutient au CNL beaucoup la librairie indépendante. Elle joue un rôle tout à fait fondamental sur la diversité de la création pour aller sortir, dénicher l'auteur dont on a un peu moins parlé dans les médias et puis qui finalement va par le bouche à oreille cheminer petit à petit jusqu'à éventuellement être repéré par un prix et avoir un grand succès.
Pour vous, le bouche à oreille, ça fonctionne vraiment ?
Oui, je crois que le bouche à oreille, on évoquait les influenceurs.
Oui.
C'est un moyen moderne de bouche à oreille. Il y a aussi des clubs de lecture qui se développent. Nous, on les soutient aussi au CNL. C'est important, ces clubs de lecture. La prescription entre pairs, c'est quelque chose de fondamental aujourd'hui. Et beaucoup de livres mettent un petit peu de temps à faire leur chemin et vont arriver par le bouche à oreille progressivement à se faire connaître.
Thomas Bou, vous vouliez réagir?
Oui, au fait effectivement que on a besoin de toute une chaîne finalement de prescriptions pour parvenir à faire exister des livres un peu plus difficiles ou un peu plus originaux. Une autrice par exemple inconnue encore en France comme Annie Kutimaki, et il s'agit alors là pour le coup de s'appuyer justement sur le savoir-faire des libraires, sur leur capacité à convaincre, et ils sont d'abord là pour ça, pour conseiller en fonction aussi de la personnalité de leurs clients. C'est un très gros travail pour l'éditeur, d'ailleurs, de donner à lire ces livres à des libraires. Par exemple, nous, sur Gorge d'Or, on a donné 250 exemplaires de l'ouvrage à des libraires qui nous ont demandé ce roman. Et en l'occurrence, on espère qu'évidemment, le coup de cœur qui a été le nôtre le sera aussi pour eux. Donc il y a une transmission et on a besoin, parce qu'on ne peut pas faire ce travail seul de prescription, de toute une série d'intermédiaires, d'intervenants plutôt. Je pense aussi évidemment aux bibliothécaires qui ont un rôle, pour ce qui est de la prescription de lecture, tout à fait essentiel. Donc il y a quand même 15 000 bibliothèques en France, hein, c'est considérable. On bénéficie, comme avec la librairie indépendante, d'un réseau exceptionnel. Et je pense que chacun a sa part pour le coup.
Alors, tout à l'heure, vous en parliez, Gisèle Sapiro, vous parliez des prix littéraires. En effet, si eh bien la plupart des romans sortent maintenant, c'est parce qu'il va y avoir forcément les prix littéraires qui vont s'égrener, je pense, de fin septembre jusqu'à le prix Goncourt. Donc, c'est en mois de, au mois de novembre. Aujourd'hui, ces prix littéraires en France... Alors, c'est assez étonnant quand on tape sur Internet le nombre de prix littéraires en France. C'est incroyable. Tout le monde veut son prix littéraire. En sachant, par exemple, que même 30 millions d'amis a un prix qui est assez recherché. D'ailleurs, quand on voit son jury, il est composé d'écrivains assez prestigieux. Aujourd'hui, tout de même, la course au prix, elle est très importante en France.
Oui, elle est très importante. Alors, il y a énormément de prix. Il y a des prix par genre, il y a des prix de poésie, il y a des prix par langue. Par exemple, il y a des prix, je l'ai dit, pour les littératures étrangères. Il y a des prix par région. Il y a des prix de la francophonie.
Des prix par ministère aussi. Vous avez chaque ministère a son prix littéraire maintenant.
Et donc, mais seuls quelques prix, en fait. Alors, il faut aussi distinguer les prix des lecteurs, des jurys qui sont composés par des écrivains, donc par des pairs. Qui n'ont donc qui ont plus de prestige littéraire que a priori les prix de lecteurs, mais les prix de lecteurs peuvent avoir un impact en termes de vente. En fait, les grands prix d'automne, ce sont des prix qui ont à la fois une valeur symbolique élevée et un impact en termes de vente, des retombées économiques importantes. Le Goncourt, donc, on disait, fait multiplier par 4,5 les ventes, ce qui est beaucoup. Voilà. Et donc, il y a une histoire de ces prix-là, parce que bon, les prix, il y en avait sous l'Ancien Régime, c'était des prix de concours, mais ça n'avait pas ce même impact économique, c'était réservé au petit milieu lettré. Le début des prix littéraires, c'est au début du XXe siècle. En fait, on a le prix Nobel, 1901, et puis on a le prix Goncourt, qui est un legs des frères Goncourt, qui crée l'Académie Goncourt, contre l'Académie française, contre le monopole que avait l'Académie française dans la consécration littéraire, pour promouvoir un genre, le roman, qui était un genre méprisé à l'époque et qui commence à peine à entrer à l'Académie française à cette époque, et pour orienter le goût du public au moment justement où se développe la production commence à se multiplier aussi, où avec l'alphabétisation et l'école obligatoire, on a un lectorat qui ne cesse de s'étendre, de s'accroître. Voilà, et alors le Goncourt est créé en 1903 et aussitôt est créé le prix féminin contre la misogynie des Goncourt, parce que le premier prix Goncourt décerné à une femme, c'est 1945.
Ah oui.
Donc à demi-siècle quasiment, voilà, pour donc le féminin est créé contre ça. Et puis en fait tous les autres prix, le Renaudot a été aussi créé par des journalistes en 1926 qui attendaient le résultat du Goncourt et ils en avaient marre d'attendre, et donc
c'est marrant de voir qu'en effet les prix, il y a toujours une réponse,
Il voulait aussi corriger le choix des Goncourt. Voilà. Donc les prix sont en relation, ils se définissent les uns par rapport aux autres. C'est vrai que le Goncourt reste le plus important du point de vue de sa valeur symbolique et de son impact, aussi de sa capacité à faire traduire des livres en langues étrangères. C'est celui qui a le plus il est connu à l'étranger, il est mentionné, même si peut-être moins qu'avant, mais quand même toujours. Donc il fait toujours vendre des livres en France et à l'étranger.
Voilà, et obtenir le Goncourt en plus pour une écrivaine ou un écrivain, c'est aussi avoir son emploi du temps qui se remplit, puisqu'on voyage justement à travers différentes fois au livre. Mais il est vrai que Pascal Perrault, c'est la fameuse question aussi qu'on se pose. Alors cette question, on se la pose aussi bien en littérature que pour des festivals de cinéma. L'année dernière, c'est vrai que c'était Vivre Vite de Brigitte Giraud qui avait remporté le prix Goncourt, qui s'est écoulé à 198 000 exemplaires, alors qu'on parlait à l'époque d'un autre livre, celui de Giuliano De Empoli, sur le match du Kremlin, sur Vladimir Poutine, qui lui, déjà avait été un succès populaire bien avant, avec 320 000 exemplaires. Et on en a parlé comme prix Goncourt, et finalement, c'est pas lui. Est-ce qu'à un moment, il y a aussi ces critiques de dire, de temps en temps, les prix littéraires ne prennent pas en compte du tout l'aspect populaire des livres? Est-ce que c'est leur rôle, d'ailleurs?
Alors, ça, je laisserai à l'Académie Goncourt le soin de donner ses explications. Déjà, être dans la sélection de l'Académie Goncourt, c'est déjà une vraie reconnaissance, en fait. Donc, il y a 15 ouvrages qui chaque année sont sélectionnés par l'Académie Goncourt dans la première phase de sélection. Et déjà, pour un auteur, c'est une reconnaissance immense d'être dans cette sélection de 15. D'ailleurs, nous-mêmes, nous avons créé le prix Goncourt des détenus en relation avec l'Académie Goncourt. Et nous nous appuyons sur cette même liste de 15 ouvrages pour faire lire ces livres dans les prisons, pour essayer de favoriser l'ouverture intellectuelle des détenus et favoriser leur réinsertion. Mais sur le choix, en fait, je crois qu'il y a une très grande diversité d'ouvrages qui sont choisis. Giuliano D'Arampoli était dans la liste des 15. Ça s'est joué à quelques voix près. Ensuite, il y a toujours les petits secrets de l'Académie, de dernière minute, sur les équilibres à trouver. La sensibilité aussi des membres de l'Académie Goncourt, qui peut être différente. Mais je crois que nous avons une très belle diversité dans cette sélection chaque année.
Un mot, on a dit le prix Goncourt, ça se vend. C'est vrai que souvent les Français vont vers cet affichage. Est-ce qu'un prix Nobel, c'est la même chose? Ça se vend beaucoup aussi?
Alors, le prix Nobel, c'est différent parce que là, c'est l'auteur en tant que tel. D'accord. C'est pas un livre qui est récompensé, c'est l'œuvre. Et là, on voit cette année avec Annie Ernaux, il y a eu une multiplication des ventes assez phénoménale. Les éditions Gallimard ont immédiatement réimprimé tous les ouvrages principaux d'Annie Ernaux. Et effectivement, il y a eu une reconnaissance du public et une volonté de lire au moins un ou deux livres du prix Nobel, surtout quand il est français.
Et Gisèle Sapiro.
C'est très important pour les traductions. Hein. Le Nobel, ça a une visibilité incroyable. Moi, j'étais en Inde au moment du Nobel à Annie Ernaux et en fait ils ne connaissaient pas du tout, ils découvraient, ils étaient, à part ceux qui connaissent la littérature française, mais ils étaient absolument fascinés et passionnés par, d'ailleurs elle y est allée depuis, mais donc c'est, les retombées alors en termes de vente sont évidentes, et pas seulement pour le dernier livre mais aussi l'ensemble de l'œuvre, donc c'est beaucoup plus important en fait que les autres prix, et pour les traductions c'est aussi donc à la fois une reconnaissance symbolique, ça consacre un auteur au niveau mondial, hein, et puis aussi en termes de retombées économiques, parce que chaque traduction comme ça rapporte aussi à l'éditeur. Voilà, et d'ailleurs le Goncourt a créé maintenant des Goncourt étrangers qui sont décernés par des étudiants ou de Français, et celui qui a remporté, je crois, le plus de concours l'an dernier, c'est Mackenzie Orsel pour Une somme humaine. Donc ces choix ne sont pas forcément les mêmes que ceux des jurés.
Allez, on va continuer à en parler dans un instant, finalement, de la littérature, de cette passion et aussi de comment on lit aujourd'hui, puisque le numérique s'impose de plus en plus et beaucoup de maisons d'édition font des efforts par rapport à la production massive de papier, à la déforestation. Tout ça travaille en tout cas le milieu du livre. On revient dans un instant, c'est juste après Taylor the Creator avec Sorry Not Sorry. Pardon me. Excusez-moi. Yeah, I could have made a better choice. I mean, what the fuck?
I'm sorry. I'm sorry I don't see you more. I'm sorry that the 4 minutes where you see a son could feel like a chore. Since I'm sorry I'm your kin. Sorry we ain't close as we should have been. Sorry to my old friends. Stories we could have wrote if our egos didn't take the pen. Sorry to the freaks I let on. Who thought their life was gonna change cause I gave them head on. But instead I sped off, yeah I know I'm dead wrong. Sorry to the guys I had to hide. Sorry to the girls I had to lie to. Who ain't need to know if I was by the lake switching tides to. Anyway, I don't wanna talk. Sorry if you got a dig. For info I don't wanna get. So you stop, make a fear just to talk about my private life cause you weird. Got that good this year. That's none your biz, give enough with my all. Know your place, my personal space. Y'all don't need to be a pout. I'm sorry I don't wanna link. A small talk over dinner, I don't even drink. Can't guilt trip me, I'm ice cold rolling rink.
Nigga, read the room, don't assume. Niggas is cool, stay in your pocket, this is cool. Blah, 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 about trauma. You ain't special, everybody got problems.
Sorry I'm not empathetic. Sorry you think I'm pathetic. Sorry I don't wanna bro down. Sorry I don't know your pronouns. I don't mean no disrespect, but damn, we just met, calm the fuck down. Oh, I'm out of touch and I'm a jerk. A bank account can never
match my
that
work.
That nigga getting money, he a dick.
Sorry, Mother Earth. Polluting air with chemicals and dirt. He's causing gun and violence, Johnny sells. What the hell do you think I work for? Not to not explore, stay the same. Sorry to the fans who say I changed.
Cause I did, sorry, you don't know me on a personal level to pinpoint what it is.
Sorry to my ancestors. I know I'm supposed to fight, but this ice shining brighter than a black man's plight. I'ma make it right. In the meantime, I get some advice. Why these blood diamonds getting clean?
Nigga, fuck the price, spin it then again. I can't say niggas, I'm not Superman.
But I could try. I'm sorry I'm pretentious. Sorry that the talent, knowledge, passion is a missing. Sorry when I talk my shit and I could back it up with confidence and get you niggas tripping, man. Fuck the numbers, fuck a hook. You put me on the stage and I show you the difference. Let me see y'all hit a stage. Let me see y'all write a page. Let me see you make a decision I made and claim that I don't know about minimum wage. Just Section 8, water in the ketchup bottle to stretch. When niggas ain't getting pressed by niggas, I've been gay. Thinking it's normal cause you ain't supposed to make it past 18. No escape, the figure 8 cycle. When I promise this is like a diet, I'ma make a way. Yet I did, feel good, work paid off. Now we don't celebrate, but niggas claim you arrogant. When they came in late, some moments are feeling great. So they aim, duck, 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 or shot right back. Sorry, not sorry, I got two words.
Fuck 'em.
Inter. Jean-Mathieu Pernin, le débat de midi.
Le débat de midi, nous parlons livres, rentrée littéraire, vous les voyez fleurir hein, depuis la mi-août, c'est 466, voire 470 hein, romans et nouveaux livres en tout cas qui sont disponibles, alors c'est beaucoup moins, alors voilà, tout le monde paraît déçu, mais déjà ça fait beaucoup, beaucoup d'ouvrages et on va écouter tout de suite Olivier qui nous a laissé eh bien une note vocale sur l'appli interne, n'hésitez pas à faire de même, et lui il s'étonne justement que ce soit un peu toujours les mêmes livres qui soient mis en avant.
Bonjour à tous. Une question me taraude concernant la rentrée littéraire et puis la littérature en général. Comment se fait-il que, aussi bien dans les prix Goncourt, Renaudot et autres, ou dans la rentrée littéraire, ou les livres qui sont présentés sur les chaînes de radio, la télévision, etc., il s'agit toujours, toujours et toujours de livres qui sont proposés par des éditeurs, et pourquoi jamais de livres, de romans et d'écrits d'auteurs indépendants? Voilà, merci, bonne journée à vous.
Merci Olivier pour votre note vocale. Alors, je ne sais pas, Gilles Sapiro, est-ce que vous avez...
Oui, mais ça renvoie à ce cloisonnement que j'évoquais tout à l'heure entre le monde de l'édition professionnelle qui, en fait, essaye le plus de contrôler toute cette chaîne du livre et aussi de contrôler les prix. Ça n'est pas une nouveauté. Et puis ce monde de l'auto-édition qui est complètement différent. Et effectivement... C'est juste, hein, en fait, non seulement les jurés ne lisent que les livres édités par des éditeurs professionnels, mais ce sont les éditeurs qui choisissent quels livres ils vont faire envoyer aux jurés. Donc il y a une présélection qui est opérée au sein de chaque maison entre les auteurs. Alors on peut le déplorer et en même temps, si déjà les jurés ont 312 livres à lire pour la rentrée française et puis 150 en étranger durant l'été. Donc on peut se demander ce qui se passerait s'ils recevaient en plus des livres envoyés par leurs auteurs.
Thomas Bou, vous-même, vous l'entendez aussi cette critique en disant finalement les livres, romans et écrits d'auteurs indépendants sont rarement mis en avant ?
Oui, je pense que on est aussi bien concerné que Olivier l'indiquait là à l'instant dans sa note, à savoir que en tant qu'éditeur indépendant, interdépendant d'ailleurs plutôt, on est aussi soumis à un certain diktat hein, que j'évoquais au début de notre conversation, à savoir que il y a énormément finalement de liens entre aujourd'hui des grands groupes d'édition et des groupes de médias. Avec de fait un miroir assez déformant de ce que peut être la littérature aujourd'hui. Donc on est également victime, entre guillemets, de cette situation.
Alors, je voudrais vous évoquer juste, il nous reste assez peu de temps pour parler, et bien finalement aussi de cette révolution. Alors là, vous tombez bien, Pascal Perrault, puisque comme vous êtes directeur général du Centre National du Livre, le livre, bien sûr, c'est le papier, mais c'est aussi par numérique. On voit de plus en plus, hein, sûrement si vous avez pris le train, eh bien pendant les vacances, vous avez pu voir tout le monde sur des écrans. C'est pas forcément pour voir une série ou pour aller sur les réseaux sociaux, mais c'est également pour lire. Alors il y a Gilles aussi sur l'appli France Inter qui nous dit pourquoi les livres au format numérique sont plus chers que les livres au format papier. Est-ce que c'est vrai ça ou pas?
Pas forcément plus cher, mais pas beaucoup moins cher non plus.
Oui, c'est donc ça.
Effectivement,
oui, la question en fait vraiment de Gilles, c'est de dire finalement vu qu'il n'y a pas le travail en effet artisanal autour du livre, de la couverture, du papier, est-ce qu'il ne devrait pas être moins cher finalement le livre numérique?
Alors il doit être un petit peu moins cher, mais par contre il y a quand même un travail éditorial, de mise en page, de diffusion, qui fait que il y a tout le travail aussi de relecture de l'auteur. Enfin, il y a un vrai travail éditorial derrière un livre numérique. Et souvent, d'ailleurs, on a une diffusion au format numérique en même temps que la diffusion au format papier. Effectivement, le livre numérique se développe. Dans notre dernière enquête, notre dernier baromètre, les Français la lecture, que nous faisons tous les deux ans avec Ipsos, on voit qu'il y a 26% des Français qui ont déjà lu un livre numérique. Il y a un vrai développement de ce mode de lecture, en particulier chez les moins de 25 ans, hein, qui lisent de plus en plus sur liseuse, mais aussi de plus en plus sur leur smartphone, où ils accèdent à des plateformes où ils trouvent une très grande diversité d'ouvrages. Pour les citadins, évidemment, c'est un moyen aussi de ranger plus facilement ses livres quand on n'a que son téléphone pour comme bibliothèque. C'est un phénomène qui peut être aussi complémentaire, parce que quand on part en vacances, ça peut être plus simple de lire sur une liseuse pendant son temps de vacances. En même temps, je crois que beaucoup de Français restent quand même encore très attachés au livre papier, et on n'a pas assisté à l'effondrement du livre papier qu'on nous annonçait il y a une dizaine d'années.
C'est ça, on a l'impression que le livre numérique, finalement, on en parle beaucoup, tout le temps, mais ça monte très très petitement, en fait. Oui. Ce n'est pas encore une explosion. Hein, tout
à
fait.
Mais c'est parce qu'on a la chance d'avoir des libraires en France. C'est quand même une espèce en voie de disparition aux États-Unis. Il y a plus qu'une seule librairie, je ne sais même pas si elle existe encore, indépendante à New York.
Toutes les autres sont des chaînes, c'est ça?
Chaînes, et même les chaînes sont menacées aujourd'hui par Amazon et la distribution, en fait, la vente en ligne. Dans des très grands espaces, on peut comprendre que ce soit plus confortable, mais encore que les chaînes de librairies se sont développées au début aux États-Unis justement pour alimenter les villes qui étaient un peu à la périphérie et qui au départ devaient offrir une plus grande diversité. Et puis à la fin, ça c'est à cause de la concentration qui opère aussi bien dans l'édition que dans la librairie, qui fait que on se concentre sur les titres les plus vendeurs. Et par exemple, la littérature étrangère est quasiment absente de ces chaînes de librairies aux États-Unis.
Thomas Bou, vous-même, vous êtes membre de l'association pour l'écologie du livre. Vous prenez la responsabilité du secteur quant à la production de papier, de déforestation. Le livre numérique, pour vous, c'est une solution?
Alors, je pense que c'est encore très marginal à l'échelle de Rue d'Échiquier. Hein, c'est 1 ou 2% de notre chiffre d'affaires.
D'accord.
Je pense que la chance, effectivement, d'avoir ce réseau de libraires qu'évoquait Madame Sapiro à l'instant, c'est aussi pour nous le moyen de faire exister nos livres de façon différente, originale, ailleurs que sur des écrans. On peut travailler l'objet livre. Je suis assez fétichiste de la fabrication. Et je pense qu'effectivement, on offrira quand même toujours avec plus de plaisir un livre correctement broché ou relié qu'un fichier EPUB. Et je crois que la dimension cadeau du livre, qui évidemment s'exprime très fortement pendant la période des fêtes, est aussi une raison pour nous tous, éditeurs, de continuer à faire de beaux livres papier.
Pascal Perrault, vous vouliez agir.
Juste pour rajouter que ce qui importe, en fait, c'est que tout le monde lise.
Oui.
Et on sait qu'il y a une baisse de la lecture assez importante chez les jeunes adolescents.
Ça, c'est 18-24 ans.
Chez les 18-25 ans, on constate effectivement un recul assez rapide de la lecture. Et si il faut développer le livre numérique, le livre audio aussi qui se développe pour aller là où sont les jeunes, pour les inciter à lire, pour qu'ils trouvent ce qui peut les divertir, développer leur imaginaire par ce biais. Il faut vraiment y aller. L'année dernière, notre slogan, c'était « Je lis comme je veux ». Donc, c'est lire en papier, mais ça peut être lire aussi autrement. Et ce qui importe, c'est de trouver le livre qui plaît pour donner le goût de la lecture.
Mais vous-même, Pascal Perrault, alors, je ne sais pas si vous pouvez le dire, mais vous-même, vous êtes plus attaché finalement au livre papier ou vous lisez aussi sur numérique?
Alors, moi, j'ai toujours été bibliophile. Et donc, le livre papier, même parfois les très vieux papiers.
Oui, vous aussi, Gilles Sapiro, vous êtes plus attaché au papier?
Complètement, oui. Et puis c'est aussi la sensation, le plaisir d'avoir un livre entre les mains.
Ouais, mais pourtant, ce que dit Pascal Perrault est aussi juste, oui, en effet. Mais alors, bien sûr, ça peut être sensuel, ça peut être un plaisir, mais en effet, quand on voit des usages...
Rien à voir avec une liseuse.
Bien sûr, mais quand on voit les usages qui ont changé, même regarder une série, on ne regarde plus forcément la télévision,
non, mais
sur son portable.
Pas, hein, non, mais c'est personnel.
Qu'est-ce que vous en pensez, justement, de
ça? Moi, je suis très contente d'avoir une liseuse quand je suis à l'étranger, que j'ai besoin d'un livre français que je ne vais pas trouver tout de suite et que je peux appuyer sur un bouton et l'avoir. Donc, en plus, je pense que ces médias sont pas en concurrence. Moi, parfois, je peux avoir acheté un livre sur liseuse et après le racheter en papier parce que je voudrais avoir le livre.
Donc, ah oui, d'accord. Pas... Pour vous, c'est possible de faire les deux.
Oui, bien sûr.
Il faut déculpabiliser.
Je pense... Oui, non, mais il n'y a pas de question de culpabilité. C'est pas du tout en ce sens-là. Je pense que c'est des usages personnels. Je pense que c'est aussi des usages générationnels. Mais je voudrais quand même rappeler que c'est aussi, il y a une dimension sociale. C'est-à-dire que quand même, la lecture est toujours de livres parce qu'on parle de lecteurs de livres. Les jeunes, ils lisent plein d'autres choses en ligne. Mais elle est toujours indexée au capital culturel, au niveau d'études, à la profession, et ça voilà, donc 80% de ceux qui ont fait des études supérieures contre 38% sans diplôme lisent des livres régulièrement. Les cadres versus employés, ouvriers.
C'est bon à le noter et n'hésitez pas à pousser la porte de vos librairies. Merci en tout cas à Gisèle Sapiro, Pascal Perrault et Thomas Bou d'être venus débattre au débat de midi. Merci à Étienne Bertin la réalisation, Benjamin Troncin la technique, une émission préparée par Pierre de Certaines, Savannah Ruellan et Jeanne Servati. Carmen Drake, le débat de midi revient demain, bien sûr.